jusqu'à 10h, les experts de France Bleu Champagne Ardennes, Olivier Catiot, 03 26 50 81 81.
C'est le week-end du SIDAction, grande mobilisation partout en France pour un phénomène qui touche dans le monde 78 millions de personnes. 78 millions de personnes dans le monde infectées par le VIH. Chaque mois, sur notre planète, 125 000 personnes meurent du SIDA. Ça fait à peu près 171 morts par heure. Il faut donc absolument s'en préoccuper, d'autant plus qu'ici, en France, il y a 30 000 personnes qui sont porteuses du VIH. Sans le savoir, on en parle avec nos experts aujourd'hui et on répond bien sûr à vos questions au 03 26 50 81 81. Bonjour Marc 19.
Bonjour.
Directeur des programmes France pour le SIDAction. Donc on rentre dans ce week-end qui a lieu une fois par an. Grand week-end de mobilisation. On le disait, rien qu'en France, il y a 150 000 personnes qui sont porteuses du VIH et parmi elles, beaucoup ne le savent même pas.
Oui, beaucoup ne le savent pas parce que vivre avec le VIH, c'est vivre avec un virus qui met des années avant de réussir à nous rendre malade. Et donc, on peut vivre avec le VIH très longtemps sans le savoir. C'est pour ça qu'il y a des grands enjeux pour promouvoir le dépistage en France. Les 30 000 personnes qui vivent avec le VIH, elles peuvent se sentir en pleine santé, s'être exposées au VIH sans vraiment s'en rendre compte, mais elles sont à l'origine de plus de 60% des contaminations. Ouais. Donc c'est très important de se dépister.
Est-ce qu'il y a des régions de France qui sont plus touchées par le VIH ?
Oui, l'épidémie, comme toutes les épidémies d'ailleurs, quelles que soient les pathologies, l'épidémie d'infection à VIH, on la connaît de mieux en mieux. Et donc l'épidémie d'infection à VIH, elle est beaucoup plus présente en Île-de-France, en région Rhône-Alpes, en PACA, en Guyane. La Guyane, qu'on oublie souvent parce qu'on pense qu'à la fusée Ariane, mais la Guyane c'est une grande région française où l'épidémie est en situation d'épidémie généralisée. Donc c'est vraiment les régions là où l'épidémie est la plus forte en France, oui.
Chaque année, il y a 6200 personnes en France qui découvrent leur séropositivité. 6200 personnes en France par an. C'est qui ? C'est essentiellement des jeunes, des seniors ?
Alors, c'est un peu toutes les tranches d'âge. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est surtout des gens qui ont plus de 40 ans. Parce que l'âge moyen de la découverte de l'infection à VIH, c'est autour de 40 ans. On a souvent en tête que c'est une affaire de jeunes, mais pas du tout. C'est j'ai regardé un peu les chiffres pour la Champagne-Ardenne. Ces dernières années, c'est plus de 44% des personnes qui ont découvert l'infection à VIH dans la région Champagne-Ardenne qui ont plus de 40 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne toutes les générations. Et c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Et je reviens sur la question des dépistages. C'est-à-dire quand on a 40 ans ou 35 ans, ou parfois dans les histoires de vie, on se sépare, on rencontre quelqu'un d'autre, il faut penser au dépistage, il faut penser au préservatif. Là, je ne protège de rien.
Ouais. D'ailleurs, au niveau national, 17% des nouveaux contaminés, 17% des nouveaux contaminés ont plus de 50 ans.
Oui, voilà, c'est un chiffre qui est en augmentation régulière, parce que on vit différemment sa sexualité aujourd'hui par rapport à il y a une vingtaine d'années, donc on a une vie sexuelle plus active pendant plus longtemps, donc on va s'exposer différemment. Alors bien sûr, dans certains groupes, c'est toujours important hein, chez les jeunes, c'est 12% chez les 15-24 ans de découverte d'infection à VIH, mais il faut vraiment se dire que c'est pas un seul groupe, c'est tous les groupes, qu'on soit homme ou femme, né en France, à l'étranger, qu'on soit homo ou hétéro, et puis c'est vraiment tous les âges.
03 26 50 81 81, le SIDAction au cœur des experts aujourd'hui sur France Bleu Champagne Ardennes. Vous pouvez bien sûr intervenir dans cette émission, priorité à vos appels pour vos témoignages, pour vos questions aussi. L'anonymat peut être garanti. 03 26 50 81 81, avec nous Marc 19, le directeur des programmes France pour le SIDAction, et avec nous dans quelques minutes aussi le médecin Virginie Dufour. Ben L'Enclos Soul sur France Bleu Champagne Ardennes, c'était Soul Man, 3 minutes 35 de musique pendant la durée de cette chanson. 11 personnes sont mortes du sida dans le monde.
Les experts de France Bleu Champagne Ardennes, Olivier Catiot.
9h17, nous sommes en direct et bien sûr priorité à vos appels par rapport au VIH, au mode de transmission, aux craintes que vous pouvez avoir, aux questions aussi que vous vous posez. Nos experts sont là pour vous. L'anonymat peut être garanti, hein, si vous le souhaitez. 03 26 50 81 81. Nous sommes avec Marc 19, l'un des directeurs de SIDAction France, mais aussi Virginie Dufour, qui est médecin généraliste à Reims. Bonjour Virginie.
Bonjour Olivier.
Alors en Champagne-Ardenne, il y a aussi des personnes contaminées, bien sûr, par le VIH. Est-ce qu'on a des chiffres, des proportions ?
Oui, en Champagne-Ardenne, sur Reims, alors ça regroupe les patients suivis en Champagne-Ardenne, il y a environ 1200 patients séropositifs suivis. Et en 2013, il y a eu environ 170 déclarations de nouvelles séropositivités faites.
170
pour la Lorraine, Champagne-Ardenne.
Ouais, c'est énorme. On sait si c'est plus chez les jeunes, chez les seniors. Vous avez ces détails ?
J'ai pas ces détails dans les proportions là
de la région.
Non, de la région. Non.
Entre hétéros, homo, au point de vue mondial, quelle est la proportion ? Parce qu'on dit souvent que le sida c'est une maladie de PD. Quels sont vos chiffres ?
Alors en 2013, comme vous l'avez déjà dit, 6220 personnes en France ont découvert leur séropositivité. Parmi ces personnes, 43% sont des homosexuels, hommes, 55% des hétérosexuels nés en France ou à l'étranger, et 1-2% d'usagers de drogue.
43% donc d'homosexuels hommes, 55% d'hétérosexuels au point de vue mondial. Ceci dit, quand on fait la proportion par rapport au nombre d'homosexuels dans la population, proportionnellement, donc les homosexuels sont quand même une population particulièrement touchée, particulièement visée. Homosexuels hommes
et notamment les jeunes. Hein, le dépistage doit vraiment cibler cette population parce qu'il y a un nombre croissant de diagnostics chez les hétérosexuels hommes qui ont moins de 25 ans.
Hétérosexuels hommes ?
Homosexuels hommes, pardon.
Marc 19, l'un des directeurs de SIDAction. Oui, c'est pas stigmatisant le fait de dire que les homosexuels hommes sont plus touchés. J'ai vu un chiffre en préparant cette émission, vous allez pouvoir me le confirmer. Si on prend à Paris, 17% des gays seraient porteurs du VIH, c'est énorme. Vous confirmez ou pas ce chiffre ?
Oui, bien sûr. Ouais. C'est considérable. Mais c'est l'histoire de l'épidémie. On n'est jamais stigmatisant quand, en santé publique, on dit les choses.
Voilà, 17% des gays porteurs du VIH à Paris. Ça fait quasiment 2 sur 10.
Voilà. Et c'est bien là le défi de l'épidémie d'infection à VIH, mais que ce soit en France ou dans le monde. C'est-à-dire que les proportions qui viennent d'être données là, sur les découvertes d'infection à VIH en France, c'est globalement ce qu'on retrouve dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que on a une dynamique de l'épidémie qui est plus importante dans certains groupes plus que dans d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres groupes ne sont pas concernés, comme vous l'avez dit. C'est pas parce que les gays en France sont plus concernés par l'épidémie d'infection à VIH que ça ne concerne pas les hétérosexuels. Mais effectivement, c'est une épidémie qui s'est largement répandue dans le milieu gay. Alors c'est lié à des choses. Enfin, le médecin pourra confirmer. C'est lié à des risques purement physiologiques, c'est-à-dire que il y a plus de risques de transmission lorsqu'il y a une relation sexuelle non protégée entre deux hommes que entre un homme et une femme, tout simplement, pour des raisons physiologiques. Bon, maintenant, quand vous êtes dans un groupe où l'épidémie est beaucoup plus présente, le risque de rencontrer un partenaire qui vit avec le VIH est aussi plus élevé. Donc c'est une question de probabilité. Et puis enfin, c'est ce qu'on disait en débutant, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas leur infection à VIH, et ce qu'on sait, c'est qu'on risque beaucoup plus de transmettre l'infection à VIH quand on vient d'être contaminé. Quand on vient d'être contaminé, il y a un pic de réplication du virus qui se fait dans l'organisme, et qui après qui redescend. Au moment de ce pic-là, la transmission du VIH est très importante. Donc c'est pour ça qu'il faut dépister les personnes le plus tôt possible pour casser le risque de transmission. Donc il y a tout un tas de facteurs qui expliquent les raisons pour lesquelles l'épidémie est plus présente chez les gays.
Et bien sûr, priorité à vos appels, 03 26 50 81 81 si vous souhaitez intervenir dans cette émission. 6200 Français infectés par le VIH l'année dernière, 6200 parmi eux, 12% de moins de 25 ans, Marc 19.
Oui, alors c'est bien sûr assez classique, c'est-à-dire que c'est l'âge de l'entrée dans la sexualité.
Pourtant, c'est une population qui est née avec le virus, qui a été sensibilisée, je parle pour la France, aux préservatifs, il y a des distributeurs partout, on en parle, c'est une population éduquée, qui a tous les moyens pourtant pour ne pas avoir le VIH.
Alors, oui, mais on sait bien que l'information, ça ne suffit pas. Et on sait que le cancer, quand on fume, on a de très fortes chances d'avoir un cancer, ça n'empêche pas de fumer. Bon, il y a des questions de dépendance, mais voilà, ça ne suffit pas de savoir. Il faut avoir les moyens de se protéger. Dans les relations sexuelles, on n'a pas toujours le choix d'utiliser ou pas un préservatif. Et parfois, quand même, chez les générations les plus jeunes, ce qu'on voit dans les enquêtes, alors soit le sondage réalisé par Sidaction avec Ipsos ces derniers jours, soit dans des grandes enquêtes nationales qu'on appelle KABP, que les générations les plus jeunes ont une méconnaissance plus importante des risques de transmission du VIH. Par exemple, il y a plus de jeunes aujourd'hui que précédemment qui croient qu'on peut être contaminé par le VIH par une piqûre de moustique. Parce que si on donne beaucoup d'informations sur le VIH, peut-être qu'il faut la donner mieux, peut-être qu'il faut adapter les moyens d'information pour les jeunes, peut-être que parfois on est resté dans des registres de discours trop datés, inadaptés, et ça fait partie des choses auxquelles on s'attelle à Sidaction. Donc on a fait des concours qu'on appelait VIH Pocket Film, c'est des concours avec la réalisation de petits films avec les téléphones portables, oui, pour les 15-25 ans, parce qu'il faut que ça soit, que les jeunes parlent entre eux, c'est vraiment
qu'ils
le principe.
Qu'ils soient eux-mêmes acteurs de la prévention.
Il faut qu'ils soient acteurs de la prévention, il faut qu'ils s'approprient les enjeux de la lutte contre le VIH, il faut qu'ils en parlent à leur manière, c'est pas quelqu'un de 50 ans, alors bien sûr, c'est mon âge, hein, donc je suis pas en train de discriminer les 50 ans, mais c'est le principe de la démarche communautaire en santé. Je veux dire, ce sont les groupes qui sont concernés qui vont trouver les solutions pour répondre à leurs besoins. Et donc quand on élabore des messages de prévention à l'intention des jeunes, qu'ils soient homo ou hétéro, qui vivent à la ville ou à la campagne, il faut que ça soit eux qui participent à l'élaboration de ces messages, parce qu'il faut que ça leur parle, il faut qu'ils se parlent entre eux. Donc c'est pour ça pour nous c'est très important ce concours, et dont les films ensuite sont mis sur des DVD qui sont mis à la disposition de l'Éducation nationale, ce qui fait que ça donne un support pour des actions de prévention en milieu scolaire. Les infirmières scolaires sont très mobilisées. Et donc, c'est les jeunes parlent aux jeunes. C'est-à-dire qu'il
On l'a bien compris, Marc 19, directeur des programmes France pour le Sidaction. On poursuit cette émission dans un instant. Bien sûr, priorité à vos appels, à vos questions. 03 26 50 81 81. À 9h25, un petit détour par la route. Avec un obstacle qui nous est signalé sur la chaussée, sur la Nationale 1043, pour vous qui venez de la Belgique vers Charleville-Mézières, au niveau de Ballan, dans les Ardennes, donc gêne à la circulation avec un obstacle sur la chaussée.
France Bleu Champagne Ardennes, vous écoutez les experts.
Jardin de prière en un claquement de doigts, de secondes absentes en minutes éperdues. J'oublie toutes les heures du temps perdu. L'histoire nous emporte et prendra des détours. Je veux lire mon avenir dans tes yeux tous les jours. Le cœur dans les étoiles, faire comme si j'y étais. Les peurs qui s'installent dans tout ce que je fais. Passé pas si simple, souvenirs imparfaits. Quand ton regard prend forme, tout ce que j'étais. Les mots, les silences nous bâtissent une tour. Je peux lire mon avenir dans tes yeux tous les jours. puis il y a toi, toi qui m'ouvres les bras. Tu me tiens par le cœur et je n'ai plus le choix. Bouquet de mystère, parfum d'une victoire. Je guéris de l'enfance quand je suis près de toi. Je ne veux rien d'autre, mais pour toi je veux tout. Je peux lire notre avenir dans tes yeux chaque jour.
Tout nouveau titre de Patrick Fiori à l'instant sur France Bleu Champagne-Ardenne, dans tes yeux chaque jour.
Les experts de France Bleu Champagne-Ardenne, Olivier Catio.
En ce moment, en France, 30 000 Français sont porteurs du VIH, sans le savoir, avec tous les dangers que ça, comporte. En France, en tout, 150 000 personnes sont porteurs du VIH et ça ne se guérit pas. On est avec Marc Dizneuf, le directeur des programmes France pour le SIDAction, qui a lieu ce week-end, dont Radio France et France Bleu sont partenaires. Et puis avec Virginie Dufour, aussi médecin généraliste. Virginie, 30 000 personnes porteuses du VIH sans le savoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe avant-coureur, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de plaque sur la peau, il n'y a pas de...
L'infection peut rester asymptomatique pendant plusieurs années et on se sent complètement en bonne santé. Par contre, bien évidemment, on peut transmettre sans le savoir le virus.
Donc c'est uniquement la prise de sang qui est la solution pour savoir.
Le seul moyen de le savoir, c'est le test de dépistage qui détecte les anticorps dirigés contre le virus.
Est-ce que moi, là, tout de suite, je peux aller dans un labo à côté de chez moi, demander une prise de sang gratuite ?
Il faut passer par le médecin généraliste qui prescrit
sur ordonnance.
Par contre, vous pouvez aller dans des centres de dépistage gratuits et où l'anonymat, bien évidemment, est respecté. D'ailleurs, comme dans les laboratoires, si un diagnostic se révèle positif, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Mmh. Donc, la déclaration se fait par le biologiste qui découvre la séropositivité.
C'est-à-dire, à déclaration obligatoire, notre banquier, notre employeur sera mis au courant ?
Pas du tout.
C'est transmis.
Les notifications sont faites avec un code d'anonymat,
oui,
transmis par le biologiste, par le médecin qui a prescrit le test, ou qui va suivre le patient avec un code d'anonymat. C'est transmis aux médecins des agences régionales de la santé qui transmettent ensuite à l'Institut national de veille sanitaire.
Et bien sûr, priorité à vos questions pendant cette émission. 03 26 50 81 81. Anonymat garanti, d'ailleurs, c'est un prénom d'emprunt pour cette question. On va dire qu'il s'appelle Guillaume, Guillaume de Reims. J'ai fait l'amour avec une femme rencontrée en soirée. Lors d'une relation sans lendemain, la capote a craqué. Que faire ? Existe-t-il une procédure d'urgence ?
Alors, il faut, dans ce cas-là, Guillaume doit aller le plus rapidement possible aux urgences ou en semaine dans un centre de dépistage. Et là, on va lui prescrire. Il y a des kits de traitement antirétroviral sur 3 jours. Ensuite, il sera pris en charge par un médecin infectiologue qui jugera de la nécessité, en fonction du risque, d'un traitement prolongé sur 1 mois, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Là, il y a c'est au cours de la consultation où on juge de la nécessité d'un traitement antirétroviral.
Mais ça, c'est quand ça ou son partenaire est douteux, ou c'est dans tous les cas quand ça arrive?
Quand on sait
que c'est quelqu'un pas spécialement sérieux.
Présentement, ouais, c'est une, enfin, a priori, c'est une relation d'un soir où Guillaume ne connaît pas le statut sérologique de sa partenaire. Mmh. Alors, il peut bien évidemment.
Oui, Marc 19 de sélection.
Les partenaires douteux, je sais pas ce que c'est. C'est pas écrit sur la tête des gens si les gens vivent avec le VIH ou pas. On peut être multipartenaire et être séronégatif toute sa vie. Donc, je pense que là, la question, c'est d'abord pouvoir parler à son partenaire. C'est-à-dire que quand il y a une rupture de préservatif, il faut d'abord discuter avec le partenaire pour savoir si, éventuellement, cette personne vit avec le VIH ou pas. Il faut que le partenaire puisse le dire. Il faut donner la possibilité à son partenaire sexuel de dire qu'il vit avec le VIH ou qu'il a une IST. C'est le premier point. C'est pas parce que c'est une relation dans un soir qu'elle est risquée. Il y a des gens qui vivent des années en couple avec des partenaires qui n'arrivent pas à dire qu'ils sont séropositifs. Donc je pense qu'il faut sortir de ces représentations là. Il faut se dire que dépister son infection à VIH, c'est la même chose quand on vérifie son cholestérol, qu'on va chez l'ophtalmo pour voir si on a besoin de changer de lunettes ou même d'en avoir. C'est quelque chose qui doit faire partie du soin de soi. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui fait partie du soin de soi quand on a une vie sexuelle, quand on a des relations sexuelles. Il y a pas que le VIH, il y a énormément d'IST. En France, on est face à une épidémie d'IST chez les jeunes hétérosexuels. Et donc, ça participe du souci de soi en général.
Il y a un relâchement, Marc 19, chez les jeunes. On a dit que sur les 6200 nouveaux infectés l'année dernière, 12% avaient moins de 25 ans. Pourtant, ces jeunes sont nés avec les traitements et ils n'ont pas tous la même conception de la maladie. Par exemple, 27% des 15-24 ans pensent qu'on peut guérir du sida.
Oui, parce que on sait qu'il y a des traitements qui sont très efficaces. Et on finit par des glissements successifs par croire que ces traitements arrivent à éradiquer l'infection à VIH. On vit avec le VIH, mais on ne fait pas disparaître le VIH du corps. Dès qu'on arrête les traitements, la réplication du virus reprend. Donc un des objectifs de la recherche aujourd'hui, parce que le virus est stocké dans des réservoirs, c'est de trouver comment ces réservoirs fonctionnent. Quand on prend le médicament, le virus ne se multiplie plus, il reste caché dans des réservoirs. Quand on arrête le traitement, la réplication reprend. Alors c'est pour ça que chez les plus jeunes, on peut avoir cette croyance sur le fait qu'on va guérir du sida. Comme il y a des croyances que une pilule contraceptive va protéger de l'infection à VIH. Ouais, parce qu'il y a une mauvaise compréhension du rapport entre ce qu'est la contraception, ce qu'est une infection sexuelle par exemple.
11% des moins de 25 ans en France, dans un pays où on a quand même une certaine éducation, 11% des moins de 25 ans pensent que la pilule contraceptive protège du sida. J'hallucine là.
C'est tout le défi auquel sont confrontés les centres de planification familiale ou les infirmières scolaires dont je parlais.
Mais c'est grave ça, c'est quoi? C'est l'éducation nationale? Enfin, il y a bien des responsabilités à prendre à un moment.
Alors, c'est pas que la responsabilité de l'éducation nationale, parce que dans un établissement scolaire où vous allez avoir des infirmières scolaires ou des intervenants extérieurs très mobilisés, vous allez avoir des personnes qui vont avoir du mal à discuter, à échanger sur la sexualité.
Bah ouais, mais c'est leur boulot quand même.
C'est leur boulot, mais si c'était si simple, on n'aurait pas de problème de santé dans aucun domaine. C'est-à-dire que les campagnes massives sur l'arrêt du tabac sont faites, les campagnes sur la bonne alimentation sont faites, et pour autant, il y a toujours des difficultés comportementales dans à l'égard de sa santé. Donc, il suffit pas de dire les choses, il faut aussi accompagner les personnes dans l'appropriation des messages de santé et leur donner les moyens de le comprendre. Donc, c'est toute la difficulté des stratégies de santé, c'est-à-dire que il y a ce que l'on sait, il y a l'information qu'on diffuse, et puis ensuite, il faut que les personnes elles puissent se l'approprier et qu'elles la comprennent bien. Donc, cette part de personnes des 11%, c'est ces personnes qui vont avoir plus de difficultés à s'approprier les messages de santé. Peut-être que c'est les personnes qui sont moins à l'aise avec la lecture. C'est peut-être des personnes qui vivent dans des conditions sociales difficiles, ce qui fait que la santé, ça passe après tout le reste. Et c'est des choses à prendre en considération.
Vos questions, bien sûr, 03 26 50 81 81. Une question sur la fellation dans moins d'une minute.
Des solutions au quotidien. Les experts de France Bleu Champagne Ardenne.
France Bleu.
France Bleu, France Bleu. Élection départementale 2015.
Dimanche 29 mars, deuxième tour de scrutin. Quels candidats sortiront vainqueurs des urnes? Le FN est présent au deuxième tour dans la quasi-totalité des cantons de la Marne et des Ardennes. L'Union de la droite gardera-t-elle son avance? Un parti socialiste en difficulté? Résultats, réactions et analyses, dimanche soir dès 20h, en direct sur France Bleu Champagne Ardennes et sur francebleu.fr.
Les experts de France Bleu Champagne Ardenne, Olivier Catio.
Vos questions par rapport au VIH, au SIDA, pour ce week-end de SIDAction, émission spéciale sur France Bleu, groupe Radio France, dont fait partie France Bleu et partenaire de ce SIDAction 2015. 03 26 50 81 81. Plusieurs questions nous arrivent en ce moment au standard. Virginie Dufour, médecin généraliste. Quand un patient vient vous voir, il y a aussi des questions, et vous avez sans doute déjà été confronté à celle-ci. La fellation sans préservative est-elle une pratique à risque ou pas ?
C'est une pratique à risque dans la mesure où le virus est contenu dans les sécrétions sexuelles. Il peut toujours s'avérer qu'il y ait une plaie buccale, donc une exposition au sang également. Donc oui, c'est une conduite à risque.
Pratique à risque donc, mais moins risquée quand même que tout ce qui est pénétration vaginale, sodomie, etc. Il y a une proportion de risque différente. Oui. Si on n'a pas de plaie dans la bouche, donc théoriquement, et que l'éjaculation ne se fait pas dans la bouche, théoriquement, voilà. Risque est assez limité.
Le risque est tout à fait.
Parce que c'est pas très rigolo une fellation avec un préservatif.
C'est ça.
Faut dire ce qui est.
Faut dire ce qui est.
Marc 19 de Sidaction.
Oui, tout a été dit. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une transmission, il faut qu'il y ait un vecteur. Alors là, le sperme en l'occurrence, et qu'il y ait une porte d'entrée. Ça serait une plaie dans la bouche. Si le vecteur n'arrive pas dans la bouche, c'est-à-dire que si l'éjaculation se fait hors de la bouche, et ou si dans la bouche il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de risque de transmission. Donc c'est pour chaque risque, il faut envisager la gradation des risques, c'est-à-dire les différentes. Il faut réduire les risques. Donc une fellation, si elle est protégée par un préservatif, il n'y a absolument pas de risque. Mais effectivement, c'est pas forcément la pratique la plus courante, la fellation avec un préservatif. S'il y a une éjaculation dans la bouche, alors il est préférable de ne pas s'être brossé les dents un peu avant. C'est un conseil qu'on donne souvent. Mmh. Parce que le brossage des dents, ça peut irriter les gencives et ouvrir des portes d'entrée. Et si on peut ne pas éjaculer dans la bouche, du coup, il y a un niveau de risque qui est nul.
C'est mieux.
Voilà,
Virginie Dufour, médecin généraliste. Les modes de contamination, donc, en général, qu'est-ce que c'est pour le sida ?
Transmission sexuelle.
Oui.
Donc, contact entre les sécrétions sexuelles et les muqueuses génitales et anales.
Oui.
La transmission sanguine. Mmh. Essentiellement, les usagers de drogues injectables, par utilisation de matériel souillé. Donc c'est en régression très 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 sensible, enfin très très nette. Et puis il y a aussi une transmission verticale de la mère à l'enfant, de la mère enceinte porteuse du virus.
03 26 50 81 81, vos questions pour cette émission spéciale Sidaction. Dans les experts, des experts qui répondent à vos questions, on est avec Marc 19, l'un des directeurs de Sidaction France, et avec Virginie Dufour, médecin généraliste, ensemble pendant encore 5 petites minutes. Texas, I Don't Want a Lover sur France Bleu Champagne Ardenne.
Les experts de France Bleu Champagne Ardenne, Olivier Catio.
Avec le SIDAction au cœur de nos préoccupations toute l'année, mais aussi ce week-end, hein, puisque pendant tout ce week-end, c'est le SIDAction, vous pouvez faire vos promesses de dons au 110 ou sur sidaction.org. Virginie Dufour, vous qui êtes médecin généraliste à Reims, la réalité du terrain, ce sont des gens parfois qui refusent de se faire dépister, qui refusent la prise de sang.
Pour en revenir au cas précis de la question de Guillaume qui avait une partenaire qu'il ne connaissait pas, effectivement, il y a des, même dans le cas précis du préservatif qui a craqué, parfois on peut demander. Et j'ai déjà eu des patients qui ont demandé comme ça à une partenaire qu'ils ne connaissaient que très peu de faire un dépistage à l'occasion comme ça d'un accident de préservatif. Et la partenaire ne voulait
refuser
pas.
Refusait la prise
refusait.
De sang. Ça fait flipper, ça.
Ben oui. Oui, mais c'est comme ça, mais c'est la réalité.
Ouais. Tant que médecin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, c'est de la pédagogie, de la diplomatie.
C'est de la pédagogie en incitant.
C'est des bombes humaines, ces gens-là.
En incitant le patient à réitérer la demande auprès de la jeune femme. Et puis finalement. Ça s'arrange.
Mais... Pourtant, c'est tellement simple de faire gaffe. Bon, après, les accidents, la capote qui craque ou quoi, mais parce que les traitements sont lourds. On le disait, il y a 27% des 15-24 ans qui pensent qu'on peut guérir du sida, ce qui est totalement faux.
C'est totalement faux, il n'y a pas de remède.
Hein. Le traitement, au mieux, stabilise, mais il est super contraignant.
Alors, les traitements ont été malgré tout allégés quant à le nombre de prises et à la quantité de médicaments.
C'est la fameuse trithérapie.
Voilà, mais ça reste des médicaments avec une toxicité des médicaments, des effets secondaires, une contrainte dans les horaires de prise, et surtout ne jamais interrompre le traitement.
Parce que là, la maladie repart
tout à fait. Donc c'est vraiment très contraignant, et bien évidemment, le dépistage reste la priorité.
Merci Virginie Dufour,
merci
médecin
Olivier.
Généraliste. Le mot de la fin, Marc 19. Les promesses de dons, donc, c'est sur sidaction.org et par téléphone pendant tout le week-end.
Pendant tout le week-end et jusqu'au 5 avril au 110, et puis par internet, très simplement, vous faites sidaction.org et puis vous arrivez directement sur la page qui vous permet de faire vos dons. Et puis vous avez une page internet aussi qui dit aussi ce que l'on fait de tous ces dons-là, qui permettent de financer des associations partout en France, dans les pays à ressources limitées en Afrique, et puis qui permettent de financer la recherche, dont l'amélioration des stratégies des médicaments dont on vient de parler à l'instant.
La dernière question, peut-être un petit peu polémique, Marc 19 de SIDAction. Nous, à France Bleu, en tant que médias, lors du Téléthon, on voit une gigantesque mobilisation en Champagne-Ardenne. Il se passe quasiment rien en Champagne-Ardenne pour le SIDAction chaque année. Est-ce que ça vous choque ?
Ça me choque pas, ça dépend. Enfin, les questions de mobilisation, c'est très dépendant des acteurs locaux. C'est très dépendant des associations qui sont sur place. Aide est présent à Reims. Voilà, ça dépend de plein de choses. Et puis le Téléthon, c'est une mobilisation qui, dans toutes les régions, n'est absolument pas comparable avec celle de SIDAction. C'est plutôt celle de SIDAction qui est incomparable avec celle du Téléthon, parce que ça fonctionne différemment. C'est des groupes de militants, j'ai envie de dire, qui sont différents.
Donc même s'il n'y a pas de grosses festivités pour le SIDAction, on peut de toute façon faire ses promesses de dons, et c'est bien là l'essentiel. Hein.
Oui, voilà.
Le 110 et sidaction.org. Merci Marc 19, directeur des programmes France de SIDAction, et bon week-end, ça va être chargé là, hein, pour vous.
Ça va être très chargé.
Pour la bonne cause, à bientôt.
Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Les experts de France Bleu Champagne Ardenne, à réécouter sur francebleu.fr.